Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici, sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh. When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people. Humans. Consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Want to know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like, that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
C'est reparti pour un nouvel épisode de Sarifolie, épisode 24 de la saison 4, après deux semaines d'absence, deux semaines de congés bien méritées. Bonjour Aurore.
Bonjour Ben.
Ça va bien?
Ça va bien, oui.
Revenu en pleine forme, avec une nouvelle édition de cette émission qui vous parle série télévisée. La tradition veut qu'on écoute un peu tes petites critiques, tes petites découvertes de nouvelles séries télé du moment.
Voilà, oui. Et on va commencer tout de suite avec une série qui n'a pas fait long feu. Donc, on va en parler pour pouvoir l'oublier assez vite. Ça s'appelait Time After Time et il me semble que ça a déjà été annulé. Ça nous racontait quoi, Time After Time? Ça nous raconte l'histoire de... Comment il s'appelle, je me souviens plus. Comme d'habitude, tu vas me dire. Donc c'est G.H. Wells, c'est possible que ce soit ça son nom.
Je n'en sais rien.
Qui découvre lors d'une perquisition de police chez un ami, chez lui d'ailleurs, ça doit être ça, machine à remonter le temps. On est en train de découvrir qu'ils ont une machine à remonter le temps dans leur cave. Et puis, le dernier ami qu'ils attendaient tous arrive. Et la police arrive peu de temps après, découvre dans la sacoche de l'ami en question l'arme du crime, puisqu'il s'agirait de Jack l'éventreur.
Mm-hmm.
Mais évidemment, il a profité d'un moment d'inattention de tout le monde, qui était évidemment super étonné qu'on trouve ces trucs dans sa sacoche pour se faire la malle dans la machine à remonter le temps et se retrouver au 21e siècle.
Magnifique.
Génial.
Oui.
Et donc, Monsieur Wells ne va faire que son devoir finalement, et lui aussi, pas enfourché, mais rentré dans la machine à remonter le temps pour poursuivre son ex-meilleur ami qui s'est révélé un criminel monstrueux, afin de le ramener, j'imagine, à la police, et puis peut-être aussi l'empêcher de commettre d'autres crimes là où il s'est trouvé. Et donc, il est tout étonné de se retrouver au 21e siècle, où il est devenu quelqu'un de célèbre et célébré notamment dans les musées dans lequel se trouve justement la fameuse machine à remonter le temps. Donc ça tombe bien, ça va permettre de faire
des voyages, aller retour.
Voilà, et d'utiliser cette machine à remonter le temps comme bon lui semble, tout en jouant un peu au chat et à la souris avec Jack l'éventreur. qui s'en donne à cœur joie dans son nouvel environnement. Il n'est pas vraiment du tout même déstabilisé par le changement d'époque. Hein. Il se fait très vite à cette nouvelle époque, nouvelle technologie, nouveau type de vêtements et tout ça, ça va pas le déranger tout de suite, du tout. Et donc, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, vu que ben, déjà que j'avais pas vu beaucoup d'épisodes, mais en plus, on n'en aura pas davantage. Il me semble que c'était une production, au départ, une idée de Kevin Williamson, le créateur de Dawson, donc, mais bon, on sait très bien que ça fait déjà un petit temps qu'il nous sort des concepts un peu pourris. Ici, c'est pas son concept à lui, hein, c'est tiré d'un livre à l'origine, mais bon, voilà, ça donnait pas grand chose, ça n'avait pas grand intérêt, et donc j'imagine ouais. que.
Moi, j'en avais bien aimé.
T'avais bien aimé
bah, oui.
T'avais regardé que le pilote, peut-être.
À mon avis, oui. Ouais. Après, ça devient quoi? Plan-plan? On s'ennuie?
Non, mais enfin, ça paraît tellement invraisemblable que ça... Et en plus, ils viennent rajouter des petites histoires de cœur avec, je crois, la conservatrice du musée.
Mais oui,
ou un truc
c'est
comme
ça que j'aimais bien, moi.
Ah, c'est ça que t'aimais bah, bien. Ouais, tu te demandais, oh, est-ce qu'ils vont enfin finir ensemble?
Ben, certainement. Et là, ils nous laissent même pas entrevoir la chose.
Ah, bon. Mais voilà, c'est dommage. Je dois t'avouer que je crois que j'ai zappé le deuxième épisode et que je suis passé du premier au troisième sans véritablement m'en inquiéter jusqu'à la fin où je me suis dit, tiens, j'ai peut-être manqué
un des
épisodes, mais enfin, c'est de dire à quel point j'étais attentive. Quoi. Donc voilà.
T'as pas aimé, c'est
ça
fini.
Ça s'appelait Time After Time et c'était génial. Alors, on passe à la suite. Il s'agit cette fois-ci d'une série anglaise de la BBC qui s'appelle Gap Year et qui nous propose de suivre un petit groupe de touristes qui, à l'occasion d'une sorte de année sabbatique, on appelle ça comme ça.
Oui, un tour du monde durant une année, on fout rien.
Voilà, décident de... Ils font pas tellement le tour du monde, mais en tout cas, ils voyagent en Asie.
Oui, puisque ils bougent. Qui te dit qu'ils ne feront pas le tour du monde?
Mais je crois que c'était pas l'objectif à okay. la base. Je crois qu'ils le disent au début du pilote. L'objectif, c'était
autant pour moi.
La Chine, même si déjà dès l'introduction du pilote, ils rencontrent dans l'avion une spécialiste des voyages qui leur annonce déjà à quoi va ressembler leur trajet, parce qu'évidemment ils s'attendent à révolutionner le voyage en allant dans des endroits où personne n'aurait jamais été, et on voit déjà le coup venir qu'en fait ils vont aller là où tout le monde finit par se retrouver, c'est-à-dire notamment en Thaïlande. Enfin, ils vont en Thaïlande, au Vietnam, etc. Jusqu'à présent, je crois que j'en ai vu 5 épisodes. C'est plutôt sympathique, plutôt sur le ton de la comédie, même si c'est un format plus long, une quarantaine de minutes. Ça nous propose donc au départ deux meilleurs amis anglais qui sont partis, en tout cas l'un des deux le croit, simplement pour se faire un voyage entre amis. Mais il va vite se rendre compte, dès le pilote, donc ici je ne spoile rien, que son ami, lui, avait en tête déjà de pouvoir poursuivre son ex qui l'a plaqué pour elle aussi partir en Chine. Et donc c'est pour ça qu'il avait choisi d'aller à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc il y a ceux-là, ils vont rencontrer en plus deux Américaines qui elles aussi voyagent entre amis, entre guillemets, même si elles sont tellement différentes qu'on a du mal à comprendre pourquoi elles s'entendent bien, ou pas d'ailleurs. Et puis, ils vont aussi croiser une sorte de boulet de service. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente au départ. Alors, je ne sais pas lui, par contre, s'il est anglais, américain, je ne me souviens plus. Mais... Qui est un peu plus vieux que lui, qui est en plein divorce, juste dans une crise post-divorce et qui est donc en train de voyager lui aussi à cette occasion-là. Et tous les cinq vont finir par former un groupe relativement soudé qu'on va pouvoir suivre tout au long de la saison, j'imagine. Autant c'est très sympathique, autant je dois t'avouer que une fois que t'as compris le principe, le premier épisode, il y a rien non plus qui te renverse de rire ou qui t'attache particulièrement au personnage. Je reste devant, mais sans totalement y entrer non plus, quoi, tu vois. J'ai pas envie de lâcher, mais j'ai... Voilà, je...
C'est mitigé.
C'est sympathique.
C'est sympathique, mais c'est pas accrocheur comme le film La Plage, quoi, qui pourrait un peu exprimer le même type de voyage, mais non, ils vont pas... Ça reste plus léger.
C'est pas ce style-là, en effet. Ça reste très léger sur le mode, sur des modes surtout. Moi, j'aimerais bien sortir avec elle, mais elle est plus intéressée par mon meilleur ami, blablabla.
Oui, c'est
enfin,
ça.
Des petits trucs où parfois tu te dis, oui, bon. Et alors, un truc qui m'a énervé aussi, c'est que l'ex en question que poursuivait un des deux amis va se révéler être un personnage absolument détestable, une vraie caricature de mégère castratrice, et ça m'embête toujours quand on a des personnages comme aussi unidimensionnels que ça. Donc voilà, là aussi je mettrai un petit bémol au niveau de ce personnage là
bien,
voilà. Alors, on passe à la troisième et dernière.
Oui.
Il s'agit cette fois-ci d'une série Quackle, donc du site internet qui s'appelle Snatch, comme le film. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens du film
bien,
avec
ouais.
Brad Pitt. Moi, je me souviens de l'avoir vu, hein, mais je dois t'avouer, je ne me souviens pas grand-chose de ce que ça racontait. Je me souviens juste...
Il y avait du baston.
Qu'il y avait Brad Pitt qui parlait avec un accent à couper au couteau et qu'on avait un type qui donnait à manger d'autres types à des cochons. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Et ça devait se passer dans des caravanes aussi. Mais à part ça, je me souviens pas de grand-chose d'autre, mais je crois que ça pose pas vraiment de problème vu qu'ici... On n'a pas affaire au même personnage et je crois qu'on n'a même pas affaire exactement au même milieu. Déjà, on n'est pas dans des caravanes et puis on a affaire simplement, un peu comme dans le film, à un milieu qui, disons, qui louvoie du côté obscur de la loi. Je sais pas. Tu vois comme je suis poétesse parfois.
Ouais. Bref, ce sont des malfrats.
Voilà. En gros, nous avons un personnage qui probablement qu'on va présenter comme le personnage principal, qui est le fils d'un gangster notoire qui s'est fait arrêter un soir de Noël suite à un braquage où il a juste eu le temps de confier à son fils un tout petit lingot d'or avant de se faire arrêter par la police. Et donc, 15 ans plus tard, on retrouve ce fils qui évidemment a grandi, qui est devenu à son tour un petit gangster, mais qui n'en est pas du tout au même niveau que son père, en tout cas pas encore, parce que justement tout le pilote va nous montrer comment, par un concours de circonstances très très... bizarre, mais plutôt drôle. Il va se retrouver embarqué dans une histoire beaucoup plus grosse qu'il ne l'aurait imaginé au départ. Il est affublé en dehors donc de ce héros. On retrouve deux autres camarades, je crois que c'est deux. Il y en a un dont je me souviens pas du tout. Et puis il y a l'autre, je m'en souviens. Pourquoi ? Parce qu'il est joué par l'acteur qui jouait Ron dans Harry Potter. Si tu vois ce que je veux dire. Bah... qui, ma foi, fait en partie le plaisir de la découverte, au minimum du pilote, puisque c'est le voir dans un nouveau rôle, alors voilà. Que jusqu'à présent, on ne l'avait pas encore vraiment vu ailleurs. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Et ce qui est marrant dans son personnage, c'est que lui, en fait, c'est un fils de bourgeois qui n'a absolument pas besoin de traficoter avec la loi pour s'en sortir dans la vie, mais qui fait juste ça par plaisir, quoi. C'est un petit peu son hobby dans la vie, c'est d'être un malfrat. Donc,
il faut bien s'occuper. Hein.
Mais oui, il faut bien s'occuper. Donc ça, c'est plutôt marrant. Et alors, on retrouve aussi un ou deux personnages féminins qui vont également être intégrés à cette histoire, plus un grand méchant, en tout cas, qui est présenté comme tel dans le pilote et qui est joué, lui, par... Je crois que son nom, c'est Ed Westwick, l'acteur qui jouait dans Gossip Girl à l'époque, et qui là est aussi presque méconnaissable, tellement ils l'ont, il est un peu transformé. Et c'est, voilà. Alors, la série joue beaucoup sur le côté série cool. Notamment avec la musique, avec le type de personnage et tout. C'est vraiment... La série qui se veut cool, et le problème c'est que je crains que ça finisse par se voir un petit peu trop, que c'est calculé pour être cool, tu vois. Donc ça c'est peut-être embêtant. Le pilote c'était pas dérangeant, c'était vraiment une chouette découverte. Dès le deuxième épisode déjà tu te dis...
Ils en font
peut-être un petit peu trop, quoi. Ils essaient peut-être un petit peu trop d'être originaux, d'être décalés, etc. Et donc, jusqu'à présent, j'en ai vu que deux épisodes, donc je peux pas te dire si ça va continuer sur cette lancée-là. Mais ça m'a un tout petit peu refroidi par rapport au plaisir que j'avais pu prendre pendant le pilote, en tout cas. Donc, à suivre.
Bien, ben voilà. Je te propose de marquer déjà une petite pause musicale.
Absolument. On va s'écouter du Radiohead, si tu veux bien. Un de leurs nouveaux titres qui a été entendu dans la série Love Sick. Alors avant ça s'appelait pas Love Sick, ça s'appelait Scrotal Recall, et puis ils ont changé de nom quand c'est passé sur Netflix. Quoi qu'il en soit, donc ce titre c'est Desert Island Disc.
On s'écoute ça. La suite de Série Folie, il est temps d'aborder le sujet du jour. Alors, Aurore, quel est-il ?
Eh bien, le sujet du jour, figure-toi qu'il nous a été donné par un article qui a été écrit par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par Nicolas Robert sur le site asuivre.org. Voilà, si tu veux tout savoir, qui nous parle du fait que certaines séries nous paraissent tellement importantes qu'on finit par penser que ce sont les nôtres, quoi. On se les accapare totalement, on a un lien tellement fort avec elles que ça devient nos séries. Voilà, donc je suis partie de cet article-là pour développer l'idée de cette émission. Et donc, on va se poser, pour commencer, la question avec Nicolas Robert. Donc, pourquoi finalement devient-on sériphile ?
Mm-hmm.
Et pourquoi est-ce qu'on devient sériphile ? Mais en fait, quand on est sériphile, c'est parce qu'on a... généralement, c'est qu'on a vécu au minimum avec une série, mais généralement, plus on évolue ou éventuellement plus on s'enfonce profondément dans notre sériphilie et plus on va normalement avoir la chance de retrouver cette sensation-là. On cherche à renouveler l'expérience que... du lien intime qu'on aura développé avec une série en particulier. Alors, il y en a certains qui ont ça très jeune, hein, très tôt dans leur vie, ils rencontrent sur leur chemin une série qui va les bouleverser totalement et qu'ils ne quitteront jamais. Et puis il y en a éventuellement, ça peut venir plus tard, quoi qu'il en soit. Mais on a tous en nous, non pas des souvenirs du Tennessee, mais...
aussi,
si tu veux. Mais on a tous en nous une ou plusieurs séries qui sont devenues... qui sont devenues nôtres, quoi, qui sont devenues tellement importantes dans notre vie que elles ont tout changé. Et généralement, même, mais on va avoir tendance à vouloir y retourner régulièrement en faisant des revisionnages. Et puis, mais chacune des nouvelles séries qu'on découvrira seront un peu jugées à l'aune de ces séries exceptionnelles qui nous ont fait connaître autant d'heures passionnées.
Mm-hmm.
J'allais dire presque enfiévrées.
Oui, ben, moi j'allais utiliser le mot un peu malade, quoi, tu vois.
Oui. Oui,
c'est comme une maladie, hein.
Ça peut s'apparenter à une maladie. On peut attraper, je sais pas moi,
une addiction aussi.
La diophysite, par exemple, une diophysite aiguë, ou bien une buffy-ite aiguë, quoi qu'il en soit. Donc, chacun a ses séries à lui, hein, évidemment. Bon, ben.
Bah, t'as la Dawsonite.
Par exemple, oui. Et donc, même si, évidemment, on peut reconnaître que toutes les séries, leur but, ça va être de nous divertir, nous émouvoir, nous faire réfléchir, etc. Mais il y en a certaines qui, pour une raison ou pour une autre, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir pour quelle raison, mais arrive à nous donner le sentiment que finalement c'est un peu comme si ces séries c'était nous, ou bien c'était nous qui les avions fait, c'est
de
une
notre
partie
monde.
De oui, une partie intime de ce que nous sommes. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces séries là tout à coup peuvent nous paraître si importantes? Au niveau des émotions qu'elles nous procurent, elles vont notamment nous proposer des personnages qui vont nous hanter longtemps. Et je sais pas si c'est ton cas, mais c'est vrai que moi, en tout cas, dans la vie quotidienne, il m'arrive à certains moments, que je sois seule ou que je sois en train de parler à des gens, d'avoir une évocation d'un personnage qui m'est cher et qui m'apparaît en imagination, parce qu'à ce moment-là, ben, ça, c'est typiquement un moment qui correspond à ce personnage-là. Ou bien j'imagine bien la réaction qu'il pourrait avoir. Ou
c'est ce plus
genre
grave
de
que
chose.
Ce que je ne pensais, Aurore. Hein.
Oui, on s'enfonce.
Bah, tu t'enfonces, hein, parce que autant je peux aimer des séries et on va en parler, autant non, je pense pas déjà avoir remis en abîme une scène de série par rapport à ce que je suis en train de vivre là en face de moi.
Non.
Non.
Mais moi oui.
Bah oui. Bah. C'est un problème.
Mais
faut te faire soigner, ma fille. Hein.
Je suis désolée. Donc oui, des personnages qui nous suivent, qui sont un petit peu comme des anges gardiens, qui se penchent au-dessus de notre épaule pour regarder ce qu'on fait.
Mon Dieu.
C'est pourquoi
ça
que, pas
c'est ton moteur, quoi. Ça te permet de sortir de chez toi. T'es un peu protégé, tu vois.
Mais aussi, pourquoi pas?
Buffy est là pour éloigner les démons. Dawson est là pour pleurer à tes côtés.
Eh bien, mais voilà, tu vois que tu comprends.
Ce sont donc des amis imaginaires que tu emmènes avec toi.
Exactement.
C'est pour ça que tu n'en as pas des vrais dans la vie. Tu n'en as pas besoin.
Mais voilà.
Ce sont des amis de substitution.
Tout à fait. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, au niveau des émotions qu'elles nous procurent, elles nous ont fourni des personnages qui ne nous quittent jamais vraiment. C'est vrai qu'ils sont devenus nos amis.
S'il te plaît, utilise la première personne.
Ok. Tu crois qu'il n'y a que moi,
pas.
En fait.
Non, tu peux inclure des auditeurs, mais tout le monde ne va pas s'y retrouver. Hein.
Non, je suis d'accord qu'il faut déjà avoir atteint un certain degré de maladie sériphilique, j'avoue. Mais en même temps, je crois que ça a été acquis depuis longtemps que j'avais atteint ce degré-là.
Oui, non, mais tu te dévoiles plus en plus chaque saison.
Ok, bon, ben voilà. En même temps, chaque saison, ça fait un an de plus que je m'enfonce là-dedans. Donc forcément, ça risque pas de s'améliorer avec les années. Quand tu penses que cette émission, on est déjà à sa quatrième saison.
Oui.
Ça fait peur. Hein. Donc, voilà. Évidemment, il y a les personnages. Il y a aussi certaines histoires qui vont coller particulièrement à ce que nous, on est en train de vivre sur le moment. Et donc, on est totalement scotché devant notre écran. Ou bien, il y a certaines scènes, éventuellement, qu'on pourrait se repasser régulièrement parce que ça nous fait du bien. Imagine, par exemple, une scène de dispute entre une fille et sa maman. Et à chaque fois que nous aussi, on a une dispute avec notre maman, on retourne à cette scène-là qui nous paraît à chaque fois nous apporter quelque chose.
T'as trop regardé Parenthood, toi.
Non, c'est pas vraiment dans Parenthood que je vais trouver de quoi me nourrir personnellement. Mais bon, ça, chacun ses goûts. Hein. Mais voilà. Et puis, au niveau des émotions, ce sont vraiment des séries qui semble nous accompagner aussi tout au long de nos vies, quoi. Hein. Ce sont aussi des séries qui, quand on replonge dedans, ben on replonge aussi dans peut-être une certaine époque de notre vie dans laquelle on se sentait comme ceci ou comme cela, éventuellement mieux ou moins bien, que sais-je. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ça permet de relire non seulement la série, mais de relire aussi notre vie en fonction de notre évolution dans notre compréhension de la série. Ce qui nous mène au deuxième point, c'est-à-dire la réflexion. La série, c'est les séries qui nous sont vraiment totalement proches, qui nous accompagnent, mais ce sont généralement des séries qui nous ont poussé à réfléchir sur des thématiques qui nous sont très intimes. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà remarqué, mais généralement, tous les gens sont traversés par quelques thématiques qui les accompagnent toute leur vie, parce que ce sont vraiment des questions qui ne les lâchent jamais. Et on n'a pas tous les mêmes thématiques. Il y en a peut-être certains pour qui la thématique, ce sera l'amitié, par exemple. Et c'est quelque chose qui les titille, parce que toute leur vie, ils se poseront des questions vis-à-vis de l'amitié. Et puis, il y en a d'autres, c'est pas du tout une question pour eux. Mais par contre, le lien entre un père et un fils, ça c'est super important pour eux, et c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir à chaque fois trouver de quoi se nourrir dans certaines séries qui parlent de ce sujet-là. Et donc, en fonction des thématiques, il y a certaines séries qui vont pouvoir nous toucher particulièrement, et puis d'autres, au contraire, à côté desquelles on va rester totalement impassible. Alors, évidemment, plus on va s'approprier une série, et plus on va apprendre à grandir avec ces séries-là. Et les séries, elles aussi, elles vont quelque part grandir en nous. Même quand on a fini la série, la série, elle continue à vivre en nous jusqu'au moment où on y retourne.
Et c'est beau.
Mais tu vois, je t'ai dit que j'avais un esprit de poète aujourd'hui. Je crois que ce sont les vacances qui m'ont...
Oui, clairement. Tu te dévoiles vraiment, libre dans ta tête, libre dans tes paroles. Alors.
Et donc, finalement... Il y a certaines séries, et c'est probablement celle-là qui justifie le fait qu'on soit passionné. Il y a certaines séries, quand on les regarde, c'est une manière de nous regarder nous-mêmes. Quand on les regarde, on prend conscience de qui on est, on prend conscience aussi de où on en est dans notre vie, on prend conscience de toutes ces choses-là, et c'est un peu comme une psychothérapie, en fait, tu vois, c'est apprendre à se connaître soi-même sans devoir passer chez le psy.
C'est magnifique.
Mais tu vois.
Quelle économie.
Oh, je te dis pas. avec ce podcast, quand même, vous aurez économisé pas
commencez
mal d'argent.
À regarder des séries télé, trouver celle qui vous plaît le plus, passez-la en boucle, et vous allez aller beaucoup mieux. Ça va tout de suite aller...
J'ai pas dit qu'on allait mieux. J'ai dit qu'on apprenait à se connaître davantage.
Ah, on se découvre.
Alors peut-être qu'à force de se connaître, on finit par découvrir que ça va pas mieux. C'est ce que tu as l'air de penser de moi, mais...
Non, mais toi, t'as l'air bien dans... Allez, je veux dire, ça fonctionne sur toi, c'est ton moteur.
Oui.
Tu vis un peu dans ta réalité,
virtuelle. Réalité augmentée par la fiction.
Oh. C'est fort.
Ah, tu vois ?
Mettre tout ça dans la même phrase.
Mais voilà, ça c'est...
Ça te permet de mieux vivre ta vie réelle par la fiction. Mais non, c'est beau.
Ah, mais je te le fais pas dire, mon vieux. C'est tout un travail. Hein. On bosse ici derrière, qu'est-ce que tu crois ? Bon, troisième point sur lequel une série va aussi véritablement pouvoir être approprié par nous. Donc il y avait les émotions, il y avait la dimension plus de la réflexion, et puis il y a le fait aussi que certaines séries semblent nous offrir une vision du monde qui nous corresponde. Alors soit parce que elle nous plaît particulièrement et on aimerait bien pouvoir avoir la même vision du monde. Et donc, par exemple, ce sont des visions du monde très positives où on va retourner régulièrement regarder un épisode de cette série-là parce que ça nous fait du bien de regarder le monde sous, avec ces lunettes-là, quelque part. Ou bien ça peut être aussi des séries qui portent sur le monde un regard qui est assez similaire au nôtre, et ça fait du bien de savoir qu'on est compris, ne serait-ce que par une série, à
on
défaut
n'est pas seul,
d'être
quoi.
Compris par quelqu'un d'autre.
Mmh, mais oui.
Et ça peut être, enfin ça peut se refléter à travers beaucoup de choses, évidemment. l'écriture, la manière dont certaines séries sont écrites, les dialogues, la manière dont c'est réalisé aussi, ou bien la narration, tous ces éléments-là vont particulièrement aider à soutenir l'une ou l'autre vision du monde. Et il y en a qui vont particulièrement nous toucher, et à nouveau, mais il y en a certaines, on va passer totalement à côté. Mais si ça tombe, notre voisin, lui, est touché au plus profond de son petit cœur devant ce qui, toi, ne te touche absolument pas. Donc, tu vois, c'est magique, il y en a pour tout le monde.
C'est super.
Est-ce que t'es pas content?
Oui, je suis super content.
Est-ce que t'es pas plus heureux maintenant que tu sais ça?
Oh, ça fait plaisir de te voir, toi, tout à fait à l'aise par rapport à ce sujet.
Pourquoi il faudrait être mal à l'aise?
Mais non, on dirait que tu fais ton coming out, là. Voilà, c'était ça.
Non, mais je crois que tout le monde était au courant que j'étais atteinte.
Hein. Non, atteinte, oui, mais à quel point?
Voilà, maintenant tu le sais.
Bien, bah, ça me parle, hein, attention, mais pas autant qu'à toi.
Probablement, oui. Bon,
pause.
Musique?
Oui, allez. On va essayer de se reposer un petit peu l'esprit.
Ah, écoute. Baby, I love your way, de Big Mountain.
Oh, le souvenir par excellence.
Entendu dans Felicity.
Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my
I wanna tell you I love you.
Nous voilà déjà de retour pour la dernière partie de cette émission, parce que Aurore a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. On a éjecté une musique de la playlist et on va y arriver. On a du temps comme ça pour clôturer cette émission.
On continue ?
Ouais.
Allez, on va donc continuer déjà à partir de ces éléments purement extérieur finalement, puisque ça venait de la réflexion de quelqu'un d'autre. Je me suis posé la question, quelles sont les séries qui, moi, me sont vraiment personnelles, les séries où je me dis ça c'est ma série, hein, quand je les regarde ou quand je les ai regardées, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être devant... la révélation pourquoi ces séries-là m'ont particulièrement touchée, alors évidemment à force de faire cette émission, ce sont toujours un petit peu les mêmes noms qui reviennent, donc les auditeurs ne seront probablement pas étonnés, mais à quoi j'ai pensé ? J'ai pensé à Daria, évidemment. Mm-hmm. Moi, quand je pense à un personnage qui m'accompagne souvent et qui fait ses remarques sarcastiques dans ma tête pendant que je suis devant des gens, c'est par exemple Daria.
Daria est dans sa tête.
Daria est dans ma tête, toujours. Dawson, bien
mais
sûr.
Oui, Dawson.
Ça, tu avais raison, évidemment. Mm-hmm. Dawson est toujours présent. Oz.
Ah ouais.
Oz, c'est aussi ma série. Alors Dexter, pendant longtemps, ça a été ma série aussi. Je me mettais religieusement devant cette série-là en buvant chaque petite minute avec délectation. Bon, et malheureusement, ça,
t'étais bien déçu, là.
Ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça a été un petit peu un coitus interruptus dans ce cas-là. Mais ça a été bon le temps que ça a duré.
Oui, c'en est vraiment à ce niveau-là, hein. C'est ça le plus pénible à entendre.
Oh, écoute...
C'est jouissif, donc, les séries télé.
Mais oui, parfois, ça peut être jouissif. Alors, j'ai réfléchi aussi à des comédies. Tiens, quelles sont les comédies où je pourrais me dire, ces comédies-là sont vraiment mes... Mes séries à moi, évidemment, il y a South Park. Ça ne me quitte pas, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette série-là. Et c'est donc une série qui m'intéresse particulièrement de continuer à suivre. Mais à part ça, c'est vrai que je sais bien que parmi les séries philes, il y en a, ils ne jurent que par Friends, ou il y en a d'autres qui ne jurent que par I Met Your Mother, ou que sais-je. Enfin, on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples. Et moi, je me retrouve pas vraiment là-dedans, mais je crois que c'est Seinfeld qui reviendrait toujours. Avec l'esprit qui continue à survivre aussi dans Curb Your Enthusiasm, donc je mettrais ces comédies-là plutôt. Avec le temps, Girls a fini par me devenir assez proche aussi, je dois dire, contre toute attente, hein, parce que c'était pas du tout gagné au départ. Scrubs, éventuellement, s'il fallait donner une série aussi... peut-être un petit peu plus connu, je citerais Scrubs. Et puis, s'il fallait donner une comédie familiale, je donnerais The Middle, peut-être, aussi. Alors, beaucoup plus tard, il y a eu Buffy. C'était il y a 3 ans que j'ai rencontré Buffy. Et depuis, on se retrouve régulièrement également pour discuter le coup. Il y aurait Justified aussi, qui là aussi, c'est vraiment avec le temps, avec la qualité d'écriture, la qualité de personnage, que je me suis totalement plongée dans cet univers-là qui est un peu devenu le mien. Et puis, il y a certaines séries qui sont tellement nouvelles que c'est peut-être un petit peu rapide de dire que ce sont mes séries, mais en même temps c'est l'impression que j'en ai maintenant.
T'as jamais été très lente non plus.
Il y a certaines séries qui peuvent être des coups de cœur aussi, hein, donc pourquoi pas. Et là, je citerai Preacher, Fargo et dernièrement Big Little Lies, même si ça en est peut-être déjà fini, mais au minimum, ça a été fort, cette rencontre-là.
Je vois.
Voilà. Toi, tu voudrais...
Oh, mais écoute, moi je suis moins, tu vois, engagé que toi, hein, tu sais bien. J'ai pu certainement m'amuser à aimer le monde d'un Deadwood, par exemple, tu vois, à m'attacher aux divers personnages. On entend le générique de The Killing, c'est peut-être l'un des seuls personnages Holder dans ce cas-ci duquel j'aurais utilisé la photo pour l'utiliser comme photo de profil Facebook, parce que j'ai eu mes périodes un peu noires comme ça. C'est vraiment le personnage un peu, je sais pas, un peu
désabusé
qui va droit dans le mur sans trop s'inquiéter malgré tout, hein. Il n'est pas suicidaire non plus, mais bon, voilà, un peu oui, une image noire de temps en temps. Moi, j'aime bien déprimer aussi et le voir comme ça vivre sa vie, ça me fait plaisir de voir qu'il y a moyen de malgré tout avoir l'air cool au final, tout en ayant des problèmes et sans s'en sortant finalement, tu vois. Voilà. Mais à part ça, tu sais, les univers, j'ai adoré plein de séries, mais je me suis rarement vraiment identifié, plongé comme toi, à avoir des amis avec moi partout, avec lesquels je peux me retrouver dans plein de situations.
Ok, ben oui, c'est vrai que t'es moins atteint. Hein.
Fallait clairement, c'est pas compliqué non plus. Hein.
C'est pas très compliqué, c'est vrai. Alors, quelles sont les raisons finalement pour lesquelles ces séries-là peuvent nous toucher particulièrement? J'aurais identifié comme première raison, et quelque part tu l'as très bien exprimé autour du personnage de Holder, c'est il y a certains personnages qui nous offrent quasiment un miroir dans lequel on aime bien se projeter, oui, parce qu'on s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Évidemment, c'est jamais parfaitement nous, mais en tout cas, que ce soit de manière un peu fantasmée ou bien quand même assez proche de la réalité, il y a une sorte de reconnaissance. On retrouve dans le personnage de fiction quelqu'un qui nous correspond bien. Moi, je sais bien, par exemple, que dans Big Little Lies, une des raisons pour laquelle j'ai autant accroché à cette série-là, c'est parce que le personnage de Reese Witherspoon, je me suis totalement projetée dans ce personnage-là, alors que toi qui me connais un petit peu, tu sais que on n'a pas grand-chose en commun, elle et moi, et ben voilà, pourtant ça peut marcher aussi. Alors ça peut être comme je l'ai dit, totalement dans le fantasme, hein, c'est pas forcément une reconnaissance trait pour trait. Alors évidemment, il y a certaines thématiques aussi qui nous intéresse tellement que quand on retrouve une série qui parle de cette thématique-là, on va accrocher directement. Je crois que la raison pour laquelle Preacher m'intéresse autant, c'est aussi parce que la thématique m'intéresse beaucoup. Encore une fois, comme la série n'a eu qu'une saison, on ne peut pas préjuger de ce que ça donnera par la suite, mais au minimum... C'est là-dessus que je vais accrocher au départ. Une série comme Dexter qui offre des thématiques totalement différentes, ça peut aussi me toucher parce que la question de comment s'intégrer socialement quand on est totalement... inintégrable quelque part, qui était la thématique quand même que portait assez fortement Dexter dans les premières saisons, hein, si tu te souviens bien. C'était quelqu'un qui ne ressentait absolument rien et qui faisait semblant en permanence pour passer inaperçu parmi parmi la foule. Ça aussi, c'était une thématique qui m'intéressait beaucoup. Donc ça peut être aussi au niveau des sujets qui sont abordés. Alors comme je l'ai dit, ça va être aussi parfois parce que certaines séries, au fil du temps, parce qu'elles nous ont accompagnés pendant très très longtemps, finissent par devenir presque des amis imaginaires, pourquoi pas, qu'on aime retrouver.
Côté rassurant, hein.
Ça a un côté rassurant aussi, absolument. Alors, il y a le fait que on aime aussi retrouver certaines séries parce qu'elles ont un regard sur le monde qui nous plaît, et ça peut être parce qu'elles ont un regard sur le monde qui correspond assez au nôtre, ou bien au contraire parce que c'est un regard qui est très différent du nôtre et ça nous fait du bien de regarder le monde un petit peu différemment. Imaginons par exemple quelqu'un qui a tendance à être plutôt déprimé et qui aime se replonger dans une série assez positive parce que ça lui donne une bouffée d'oxygène par rapport à sa manière à lui de regarder le monde. Ou bien l'inverse, hein, quelqu'un qui est plutôt positif dans la vie, mais qui aime de temps en temps se replonger dans une série un peu plombante, mais ça lui apporte aussi d'autres choses. Donc ça peut aussi être ça. Moi, quand je regarde dans les séries que j'ai choisies, la vision du monde que je vais pouvoir retrouver, je peux la trouver par exemple très très intéressante dans Daria, même si j'ai pas forcément un regard aussi désabusé sur le monde, mais malgré tout, j'aime toujours bien savoir ce qu'elle va pouvoir dire. Le regard très sarcastique, humoristique sur les conventions sociales que donne Seinfeld est aussi intéressante pour moi, etc. etc. On pourrait encore en citer bien d'autres. Donc, évidemment, le fait aussi de sentir qu'il y a certaines séries qui nous comprennent, elles semblent avoir un regard sur les choses qui correspond assez à notre regard. Et donc,
on se sent moins seul.
Parfois, oui, c'est ça. Le travail d'un créateur finit par nous sembler tellement proche de ce que nous, on peut vivre, qu'on finit par véritablement se sentir en connexion avec ce créateur-là. Évidemment, tout ça sera différent s'il s'agit d'un coup de cœur ou bien s'il s'agit d'une série qu'on apprend à connaître au fur et à mesure, mais les deux types de situations sont envisageables. Voilà toutes les raisons pour lesquelles on peut finir par trouver qu'une série, elle est un petit peu à nous tout seuls.
Ouais, elles sont quasiment toutes à toi. Bon, merci pour ce partage finalement, hein, ce dévoilement profond de ta passion, la série Billy.
Oui.
Voilà. Merci. On va rappeler que cette émission sera podcastée très bientôt via l'internet et les réseaux sociaux. Le site internet www.seriefolie.be avec SA Série relayera certainement ce podcast. On va se quitter en musique.
On va se quitter en musique avec Hush de Deep Purple, entendu dans Superstore.
Et pour ta part, on te rejoint la semaine prochaine.
On se rejoint la semaine prochaine, oui.
À bientôt.
À bientôt. So fine, she's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna
brother lover just seen. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now I got early in the morning, you got late in the evening. Well, I want and need it, oh, I gotta get heavy. She got loving like quicksand, only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all while I can't sleep. But I love it just the same. Now hush, hush, thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need the loving and I'm not to blame. Now